grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Laurent Wauquiez, président du Conseil régional, Rhône-Alpes Auvergne, vice-président délégué des Républicains. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bonjour à tous et bienvenue à vous, Laurent Wauquiez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de participer à ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Vous venez de quitter le Conseil national du parti dont vous êtes le numéro 2, les Républicains. Nicolas Sarkozy parle d'ailleurs encore en ce moment même. C'est votre première grande émission depuis que vous avez été élu à la tête de cette région Rhône-Alpes-Auvergne. Beaucoup de questions pour vous jusqu'à 13h30 qu'on va vous poser avec Alexis Brezet, directeur des rédactions du Figaro, et Christophe Jacubizine, chef des services politique de TF1 et LCI. Bonjour. Et Benoît Guelleret, qui viendra nous rejoindre avant la fin de l'émission et qui posera voilà, en bonus toutes les questions que les auditeurs auront envie de vous poser en plus depuis qu'ils vous auront écouté, donc depuis maintenant. Benoît Guelleret, hashtag le grand jury. Bonjour à vous d'ailleurs.
Bonjour, en effet, hein, vous n'hésitez pas à utiliser votre compte Twitter pour poser vos questions à notre invité. Moi, je regarderai celle qui me semble le plus pertinente ou celle que vous n'avez pas abordée. Puis je vous rejoins en fin d'émission pour débriefer tout ça. À tout à l'heure.
On va en aborder beaucoup. De toute façon, hashtag le grand jury donc, pour participer à cette émission. Laurent Wauquiez, je le disais, Nicolas Sarkozy conclut en ce moment même le Conseil national, qui est en quelque sorte le parlement du parti dont vous êtes le vice-président délégué. Et on l'a beaucoup dit depuis hier, aucun des candidats à la primaire, messieurs Le Maire, Fillon, Juppé, ne sont là au premier rang, comme ils le devraient peut-être ou pas, selon vous, alors que Nicolas Sarkozy définit la ligne du parti. C'est quoi? C'est une erreur? C'est du mépris?
Est-ce que j'aurais préféré que tout le monde soit là? Oui, évidemment. Est-ce que je trouve qu'il aurait été bien qu'il prenne la parole? Oui, bien sûr. Après, honnêtement, qui ça intéresse? Qui s'intéresse de savoir si François Fillon a pris la parole hier ou aujourd'hui? Qui s'intéresse de savoir est-ce que Alain Juppé était là à 12h30 hier ou à 10h30 ce matin?
Enfin, Nicolas Sarkozy qui veut rassembler le parti, et c'est vraiment le mot qu'il veut incarner depuis qu'il est revenu il y a plus d'un an, là, il rassemble rien. Et alors qu'il parle, qu'il donne la ligne?
Je pense que surtout le sujet qui est posé, celui-là, il est posé à tous les candidats à la primaire. Parce que ce temps-ci, c'est le printemps, donc les candidats à la primaire fleurissent dans tous les sens.
On va en parler.
Mais juste la question, elle est très simple. Qu'il y ait une compétition, c'est sain. Que ça tourne à une guerre fratricide, c'est malsain.
C'est le cas ?
On y est là ?
Non, on n'y est pas. Mais il faut être très vigilant. Et mon rôle de vice-président, c'est précisément de m'assurer que les primaires, ça reste positif, que ça ne tourne pas au bal des égaux, que chacun joue son jeu. Et surtout, et je voudrais bien insister dessus, qu'on ne se trompe pas du sens. Le sens de la primaire, pour moi, c'est les idées. C'est arbitrer sur la ligne politique de notre famille. Et il y a un vrai choix. Je pense qu'on en parlera tout au long de l'émission. Et pas le concours de beauté entre les uns et les autres. Or, ce qui me gêne, c'est que précisément, quand on débat des idées et des valeurs, je pense que c'est bien que tout le monde soit là.
Justement, vous dites que la primaire va arbitrer de la ligne du parti. Mais là, ce que fait Nicolas Sarkozy, c'est qu'il préempte cette affaire de ligne du parti en présentant un document d'orientation. Et les autres disent, mais non, c'est pas maintenant qu'on fait la ligne, il faut d'abord la primaire.
C'est précisément pour ça que j'insiste bien sur les choses. La primaire, concours de beauté, ça ne m'intéresse pas. Que notre famille politique se pose en ce début d'année, en se disant qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qu'on incarne, quelle est la ligne qu'on choisit. Et on en parlera.
Mais ça a un sens, une ligne, tant qu'il n'y a pas un candidat?
Oui. À quoi ça sert, puisque la ligne, elle sera portée par le candidat?
Mais vous voyez, précisément, vous tombez dans ce piège, qui est pour moi le piège terrible de la politique française, où on est tellement obsédé par la présidentielle, on joue tellement à la loterie l'avenir de la politique française en fonction de la psychologie du président qui sortira du chapeau, qu'on en oublie de commencer par travailler sur le fond.
Vous êtes un peu contradictoire, parce que vous nous dites qu'il ne faut pas que ce soit un concours de beauté. Si la ligne a été définie avant, si on sait déjà ce que le candidat des Républicains va incarner, ça ne sera qu'un concours de beauté.
Monsieur Jacubizine, j'ose espérer que le candidat qui sortira correspondra à ce que souhaite notre famille politique. J'ose espérer que le candidat qui sera choisi par notre famille politique ne sera pas quelqu'un qui sera en discordance par rapport à nos idées.
Si c'est programme de Nicolas Sarkozy, il ressemblera davantage à Nicolas Sarkozy qu'à Alain Juppé, le candidat qui va sortir de la compétition.
C'est pas le programme de Nicolas Sarkozy, c'est le programme d'une famille politique conjointe. C'est pour ça que je pense que c'est toujours une erreur de pas participer. Quand ils sont autour de la table, c'est un débat qui est conjoint, c'est un débat sur lequel on peut discuter. François Fillon s'est exprimé hier. Sur un certain nombre d'idées, moi je suis complètement en accord avec ce que dit François. Sur d'autres, je peux avoir des points de différence. Mais on a toujours intérêt à participer.
Donc les absents ont toujours tort, aujourd'hui.
En tout cas, je pense que c'est jamais une très bonne idée de pratiquer complètement la politique de la chaise vide. Mais j'insiste bien sur ce point-là. Pour moi, attention à ce piège, qui est le piège des présidentielles en France et des primaires. Au fond, on s'interroge sur est-ce qu'ils ont la police ou non, est-ce qu'ils sont en forme ou non, est-ce que ce sont des gens sympathiques ou est-ce qu'au contraire, on les aime pas. Mais c'est pas ça le sujet. Moi, le sujet qui m'intéresse, c'est au sortir des primaires, qu'est-ce que notre famille politique va porter comme idée?
Alors, Laurent,
on est au clair sur les dépenses publiques? On est au clair sur le régalien? On est au clair sur l'immigration? C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Et pas le concours de beauté.
Alors ça va être évidemment une partie importante de l'émission, de s'arrêter sur les valeurs que vous voulez porter. Mais précisément, Nicolas Sarkozy, il n'est pas loin de vos valeurs et réciproquement. Or, ça ne marche pas dans les sondages pour l'instant, Nicolas Sarkozy. Encore un BVA ce matin, où dans toutes les catégories du jeu, c'est-à-dire à la fois les Français, les sympathisants de droite et les Républicains, l'écart se creuse avec Alain Juppé qui caracole en tête. Où est le problème?
D'abord, pardon, mais... Et là encore, je vais essayer d'être très, très direct. Je pense qu'on a beaucoup de politiques en France qui définissent leurs idées et leurs convictions en fonction des sondages. Et d'ailleurs, des médias. Pour moi, c'est très malsain. La question, ce n'est pas de savoir est-ce que ce que je dis va me permettre de monter ou de baisser dans les sondages. La question, c'est est-ce que ce que je porte et ce que je dis répond aux problèmes ou non des Français. C'est ça la seule question.
Alain Juppé, il détermine ses idées en fonction des sondages?
C'est absolument pas ce que j'ai dit. Vous me ferez pas sortir de petites phrases contre les uns et les autres.
Vous l'avez un peu dit quand même. Que ceux qui justement ont un discours et qui caracolent en tête des sondages sont sur un chemin d'indignité. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Le mot est grave, indignité.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? On a des stars de la politique qui ont caracolé dans les sondages. Bernard Kouchner a caracolé dans les sondages pendant des années. L'apport de Bernard Kouchner au redressement de la politique française m'a pas complètement estomaqué.
Donc Juppé, c'est un peu la même chose finalement.
Non, c'est encore une fois, c'est pas la question. Moi, ce que je regarde, c'est les idées qui sont proposées. C'est là-dessus que je juge. Si Alain Juppé est bon dans les sondages, mais qui porte surtout des idées qui sont fortes et qui sont claires, tout va bien. Mais ce que je ne veux plus, c'est une politique de filet d'eau tiède.
Mais vous êtes dur avec, vous dites que c'est de l'indignité, c'est très sévère pour un de vos
Pourquoi
amis politiques.
Et je ne parlais évidemment pas de qui que ce soit.
Vous parliez de celui qui caracolait dans les sondages, c'est un peu transparent.
Non, je n'ai pas dit ça.
Celui qui en dit le moins possible, etc.
Parce que ceux qui en disent le moins possible. Et je suis très attentif à ça, pourquoi? Ça fait à peu près, 30 ans que trop souvent dans notre façon de faire, et notamment à droite et au centre, on cherche à dire à chacun ce qu'il a envie d'entendre. Et pour moi, le problème majeur de la droite, ce n'est pas ses idées, c'est la détermination dans les actes. Ce n'est pas une droite qui en dit trop, c'est une droite qui n'en fait pas assez quand elle est aux responsabilités. Et ce dont je me méfie, c'est un travers où la seule boussole des politiques maintenant, c'est le sondage BVA ou Opinionway, qui sert d'indicateur. Au fond, ce que vous m'avez dit, c'est l'indicateur du bon politique, c'est il est haut dans les sondages ou il est bas dans les sondages. Ce n'est pas ça pour moi.
Sauf que on parle d'une primaire, donc c'est un peu normal qu'avant une élection, on regarde.
Il y a un scrutin quand même.
Donc si ça marche ou marche pas.
Eh bien, ce que je veux dire, ce que je veux dire à ceux qui nous écoutent, c'est ne vous décidez pas en fonction de sondages, décidez-vous en fonction de ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie le lendemain qui déchante? Vous n'avez pas envie à nouveau, au lendemain d'une élection présidentielle, d'être déçu? Regardez attentivement ce que porte chacun. Interrogez-vous avec attention sur ce qu'est la colonne vertébrale de chaque candidat. Et c'est pour moi la seule question qui vaille. Là, je suis très simple dessus. Je veux que entre ce qui commence aujourd'hui, l'interrogation de la droite sur ce qu'elle porte, ensuite la bataille de la primaire, puis la présidentielle, on sorte avec une droite et un centre qui sachent ce qu'on veut porter et ce qu'on veut faire. Sinon, on retrouvera à nouveau les mêmes déceptions, le même désappointement et des Français qui se sentiront trahis.
Nicolas Sarkozy vient de publier un livre qui se vend très bien, dans lequel il y a un certain nombre d'éléments de programme, mais il y a aussi beaucoup, et ça a été très remarqué, un certain nombre de mea culpa, ou sur le comportement, ou sur un certain nombre de choses qui n'ont pas été faites. Avec le recul, est-ce que c'était une si bonne idée que ça, que de dire « je n'ai pas bien fait ceci, ceci, cela »
Vous m'interrogez sur Nicolas Sarkozy, et je voudrais quand même noter quelque chose. On aime ou on n'aime pas, mais il suscite l'intérêt. On aime ou on n'aime pas, mais il fait réagir. Et pour moi, en politique, rien n'est pire que l'indifférence. Rien n'est pire que le filet d'eau tiède. Parce qu'à l'arrivée, je ne crois pas qu'on construira l'avenir de la politique française sur des filets d'eau tiède. Et je pense qu'il a eu une démarche, qui est au fond assez rare, pour laquelle moi j'ai plaidé fortement depuis un certain nombre de temps, qui est juste de se poser la question, qu'est-ce qu'on a réussi et dont on est fier, et quels sont les éléments sur lesquels on a échoué. il n'y a qu'en politique où on fait semblant de dire on a tout réussi. J'écoutais votre chronique avec, vous parliez du PSG. Bon, moi je préfère l'AS Saint-Etienne ou l'OL, mais à la sortie d'un match de foot, l'entraîneur s'interroge sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Au nom de quoi les politiques français seraient les seuls au monde à ne jamais faire leur bilan critique. C'est à son honneur de l'avoir fait.
Alors, tout à l'heure, vous vous disiez que vous n'aimiez pas les politiques qui disaient aux Français ce qu'ils avaient envie d'entendre. J'ai eu l'impression que vous faisiez un peu le portrait...
C'est pas ce que j'ai dit.
Qu'il ne fallait pas dire à chacun ce qu'il avait envie d'entendre.
C'est très différent. Pourquoi c'est très différent, M. Jacubizine? Parce que vous
j'ai
êtes...
Je vais encore poser ma question, mais allez-y.
Oui, mais précisément, je ne veux pas qu'on défende mes propos. Qu'est-ce que
ça
je veux dire par
quoi,
là? On dit à chaque catégorie ce qu'elle a envie d'entendre.
Et ben justement.
On dit aux fonctionnaires, soyez sereins, il n'y aura pas de changement. On dit à l'éducation nationale, vous inquiétez pas, on va revaloriser ça ou ça, ou embaucher plus de personnes.
Est-ce que c'est Juppé, ça, de ce que vous êtes
en train
de dire.
Mais ça peut être aussi Nicolas Sarkozy, par exemple, sur le mariage pour tous. Il a dit devant une salle, qui est celle de la Manif pour tous, ce qu'ils avaient envie d'entendre pour dire ensuite le contraire dans le livre dont parlait Alexis.
D'ailleurs, qu'est-ce que vous répondez à ce changement de pied?
Il dit, j'ai évolué, j'ai changé d'avis. Ouais.
C'est des sujets qui sont très intimes et sur lesquels je peux comprendre que quelqu'un puisse réfléchir et évoluer dans sa pensée. Je peux parfaitement le comprendre. D'autant que, et d'ailleurs ça avait été largement commenté, on avait senti au moment où il s'est exprimé qu'il y avait beaucoup d'interrogations de sa part. Pour autant, moi je veux être très clair. Moi je n'ai pas changé d'avis. Je me suis opposé à la loi Taubira. Je continue à m'opposer.
Vous êtes
à
toujours
cette
pour l'abrogation, à la différence de Nicolas Sarkozy.
Je suis toujours pour la suppression de cette loi. Je n'ai pas changé mon cap sur cette question. Et pour une raison qui est toute simple. Cette loi amènera nécessairement au détricotage de la filiation. Et je ne sais pas si vous avez prêté attention, mais aux propos récents qui ont été tenus par Mme Rossignol, ministre de la Santé, qui a très clairement indiqué que bientôt, on allait remettre sur la table les questions de PMA, procréation médicalement assistée et de GPA. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que c'est une bonne approche. Et donc, pour moi, je n'ai pas changé.
Et donc, vous essayerez de le mettre dans le programme des Républicains dont vous êtes vice-président? Alors que le président, lui, n'en veut pas?
Moi, je me bats pour mes idées. On peut avoir des points de différence. Après, c'est notre mouvement et notre famille politique qui tranchera. Mais voilà, vous me dites... est-ce que dans notre famille politique, il y a des débats? Bah oui, il y a des débats.
Oui, alors vous
est-ce que la ligne est uniquement celle de Nicolas Sarkozy? Non. Et on peut avoir des différences, et c'est sain.
C'est sain, mais vous accusez d'ailleurs François Hollande d'avoir fait diversion avec, ce mariage pour tous. Quand vous reviendrez au pouvoir, la droite, si vous revenez au pouvoir en 2017, ce ne sera pas la priorité des Français. On sait que cette loi, finalement, elle, d'une certaine façon, elle est entrée dans les usages. Elle est approuvée maintenant. Alors, vous dites l'opinion, il ne faut pas gouverner en fonction de l'opinion, mais elle est quand même entrée dans les mœurs, ça a été observé. Vous allez perdre du temps alors qu'il y a tellement de priorités à abroger cette loi et recréer du clivage, du débat.
Vous vous rendez compte juste, pardon, mais je voudrais m'arrêter deux secondes sur ce sujet. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que sur un certain nombre de thèmes, bah voilà, une fois que c'est fait, c'est fini. Les politiques n'ont plus voix au chapitre.
On peut considérer qu'il y a d'autres priorités, effectivement, quand
ça... Cet aspect-là, il est pour moi parfaitement fondé dans votre interrogation. Mais quand vous me dites, non, sur les sujets sociétaux, une fois que les dégâts sont faits, les dégâts sont faits.
Parce que la société évolue aussi.
Bien sûr.
Elle se pose des questions et puis elle peut évoluer.
Bien sûr, et ça, c'est légitime. Mais je pense aussi qu'il n'y a pas nécessairement une dictature de la modernité. On n'est pas obligé de croire qu'il n'y a qu'une évolution qui nous amène à la déconstruction de la famille. C'est pas ce que je crois, c'est pas ce que je porte. Je pense que la famille, c'est un sujet important et que donc on doit pouvoir revenir sur une loi si on considère qu'elle est mauvaise. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on peut revenir, par exemple, sur la TVA sociale et qu'à l'inverse, on ne pourrait pas revenir sur la famille. C'est quand même un thème qui est important. C'est la conception d'une société. C'est aussi la façon dont elle vit les sujets de filiation. Ce n'est pas des petits sujets.
Alors, vous l'avez dit plusieurs fois, vous vous en prenez au filet d'eau tiède. On croit comprendre, mais vous ne voulez pas le confirmer. Peut-être que ça peut être l'identité heureuse d'Alain Juppé, par exemple. Et Alain Juppé, sur les questions régaliennes, les questions de sécurité, il a finalement dit un certain nombre de mesures qui rejoignent tout à fait celles de Nicolas Sarkozy ou les vôtres. Suppression des peines planchers s'il revient au pouvoir, retour sur
le
regroupement familial, 10 000 places de prison, Schengen, on revoit ça. Il vote, il soutient la déchéance comme vous. Vous l'avez voté cette semaine, la révision constitutionnelle. Quelles sont les différences alors?
D'abord, moi je me réjouis qu'Alain Juppé ait évolué. Et je suis très heureux de voir que son discours a changé sur des questions régaliennes. Vous l'avez parfaitement rappelé, il y a quelque temps, il plaidait pour une identité multiculturelle heureuse. Aujourd'hui, il a souligné...
Il affirme que ce n'est pas contradictoire, avec un programme de sécurité plus musclé.
Oui, très bien. Mais en tout cas, je n'entends plus utiliser ce terme de l'identité, de l'identité multiculturelle heureuse. J'avais eu des débats avec Alain Juppé, notamment sur Schengen. Et il y a maintenant 3 ans, j'avais tiré la sonnette d'alarme en disant « Schengen nous emmène dans le mur ». Je me souviens qu'on avait eu un échange assez musclé, où Alain m'avait dit « Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est interdit, c'est un sujet que je ne t'autorise pas à évoquer ». Je suis content de voir qu'il a changé. Et je suis content de voir que, petit à petit, au fond, ce que nous sommes un certain nombre à plaider, c'est qu'il faut qu'on sorte du déni de réalité, qu'il faut qu'on ouvre les yeux, que notre pays, potentiellement, est en train de se défaire, que sur des sujets comme le désarmement industriel, la perte de notre industrie, la perte de la compétitivité, le rapport au travail, mais aussi les questions sociétales et régaliennes, il faut avoir des politiques qui ont un langage qui soit clair. Et pourquoi
donc, à
je dis
l'arrivée, ça vous êtes d'accord? Vous êtes sur les mêmes lignes, finalement?
Mais je ne vais pas me plaindre que Alain Juppé puisse, sur des sujets, nous rejoindre et qu'on puisse travailler ensemble.
Encore un effort, Alain Juppé?
Non, je dis juste, c'est la même famille politique. Tant mieux. Moi, je n'ai pas d'ennemis à l'intérieur de ma famille politique.
Il va être totalement compatible avec le programme que vous êtes en train d'élaborer. Et donc, il pourra incarner le candidat des Républicains.
Monsieur Jacques-Cubizine, je vous ai dit que je me battais pour les idées. Et que mon premier sujet, c'est les idées. Je ne peux que me réjouir. Quand je vois que des idées pour lesquelles je me suis battu pendant longtemps, en étant parfois critiqué sur l'assistanat, sur Schengen, sur la nécessité d'un réarmement de la France et de lutte contre le communautarisme, que ces idées progressent.
Donc vous allez bientôt pouvoir soutenir Alain Juppé finalement.
Que ces idées progressent, ça me fait plaisir. Et que Alain Juppé soutienne les valeurs que je défends, ça me fait plaisir.
Alexis Brézel.
Sur tous ces sujets, vous venez dans une interview...
Pardonnez-moi Monsieur Brézel de vous interrompre, mais juste un petit point. Attention à ce qu'on ait une colonne vertébrale sur la durée. Et je me l'applique à moi-même.
Sur la durée, ça veut dire faire ce qu'on dit qu'on
va
faire.
Ça veut dire qu'on dit avant, mais on fait après.
Et là, vous avez
un doute.
Ça se jouera là-dessus, sur la crédibilité du candidat.
Je n'ai aucun doute sur aucun d'entre nous. Et on l'évoquera sûrement à partir des régionales. Mais pas de discours avant les élections pour ratisser les électeurs et ensuite une pratique qui soit différente. On a trop donné dans le registre. Et il faut une constance. Une fois qu'on a arrêté un cap, il faut bien qu'on soit au clair. Ce qu'on a dit, il faut le mettre en œuvre.
Mais vous savez ce que reprochent les Français parfois au premier quinquennat Nicolas Sarkozy, c'est justement de ne pas avoir fait ce qu'il avait dit. Donc est-ce que justement il a le profil idéal par rapport à ce que vous êtes en train de nous dire?
Je pense, et vous l'avez évoqué, que précisément ce qu'il a reconnu, c'est qu'il n'était pas allé assez loin. Et c'est tout le sens de son livre.
Et c'est la garantie qu'il le fera le prochain coup?
En tout cas, ce que je pense, c'est que c'est toujours sain de savoir reconnaître ses erreurs.
Alexis Brézel.
Sur ces sujets dont vous venez de parler, Schengen, l'immigration, l'identité, vous venez de dénoncer dans une interview au Figaro la trahison des élites. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu commode? Est-ce que finalement, les élites, vous êtes dedans autant que les autres?
Bien sûr, mais je m'applique à moi-même exactement ce diagnostic. J'ai été ministre de l'Emploi. Je pense que je n'ai pas du tout fait la réforme de la formation professionnelle qu'il fallait faire. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, j'ai essayé de m'opposer à l'entrée de la Bulgarie dans Schengen, parce que je pense que ça nous faisait sombrer. Mais je ne suis pas allé suffisamment loin.
Qu'est-ce qui vous en a empêché à ce moment-là? Qui ou quoi?
Je pense que c'est trop de pudeur. Le fait de ne pas être assez libéré et clair. Le fait à un moment aussi d'avoir peur de susciter l'opprobre, les critiques. C'est tellement plus facile de rester sur un discours très consensuel. J'ai essayé de me libérer de tout ça. Parce que je pense que c'est ce qui fait faire naufrage à la politique. Vous savez, quand je regarde, comment voulez-vous que je ferme les yeux dessus? Qui anime aujourd'hui le débat en France? Les politiques? Non. C'est les intellectuels. C'est des gens comme Finkielkraut. C'est des gens comme Onfray. C'est des écrivains comme Houellebecq. Qui obligent notre pays à sortir de sa torpeur et d'une forme de déni de réalité. Les politiques, qu'est-ce qu'on dit encore? À quel moment est-ce que les gens nous écoutent en se disant « là, je sens des vraies convictions, je sens quelqu'un qui est déterminé ».
Vous dites vous-même avec honnêteté, j'ai été en situation de faire des choses, emploi, frontières, Europe, je ne l'ai pas fait. Mais comment convaincre que vous le ferez demain? Et comment vont-ils convaincre que ceux qui ont été au pouvoir? Si vous le disiez, c'est le grand enjeu, mais il ne suffit pas de dire qu'on reconnaît ses erreurs.
Pour moi, il y a 3 choses qui sont indispensables. La première, et on y reviendra sûrement, c'est la question du retour de l'exemplarité et de l'honnêteté des politiques. Dans ma région, j'ai commencé par baisser les indemnités des élus. Vous savez que je plaide pour la suppression des régimes spéciaux de retraite des parlementaires. Je considère, avec Bernard Accoyer qui est présent sur ce plateau, qu'on a trop de députés et trop de sénateurs en France. La première condition pour retrouver un crédit de la parole politique, c'est retrouver le sens de l'honnêteté et de la droiture. La deuxième chose.
La diminution des parlementaires, vous la situez où, le curseur la diminution du nombre de parlementaires.
Je pense que, honnêtement, entre les députés et les sénateurs, on peut diminuer de un tiers à la moitié. Deuxième sujet, les valeurs. C'est fondamental. Les politiques, quand vous les entendez, c'est devenu des techniciens au petit pied. Il n'y a plus de valeurs, il n'y a plus de convictions. Moi, je vous dis, je suis pour le travail. Je ne suis pas pour l'assistanat.
Quel est le rapport entre la technicité et les valeurs ? On peut très bien défendre des valeurs et avoir une approche technique des dossiers.
Oui, mais il faut commencer par les valeurs. Il faut commencer par expliquer. Je vais vous donner un exemple. On veut réformer l'école. Le sujet pour moi, ce n'est pas l'autonomie des proviseurs. C'est pas savoir si on va mettre des professeurs qui seront rémunérés à temps ou à temps. C'est d'abord de se demander l'école, elle est faite pour quoi. Aujourd'hui, l'école de la France, c'est devenu un lieu de déconstruction. Les terroristes du Bataclan sont passés par l'école de la République. Ils en sont sortis avec la haine de la France. Et en tournant les armes contre nos enfants.
Donc, ce n'est pas augmenter les salaires des enseignants.
Juste.
Ce que propose déjà, par exemple,
juste ce que je veux, ce que je veux expliquer.
Ce qui est important. C'est
on commence. Mais oui, mais vous voyez, c'est une profonde erreur, ça. On commence par se demander, ça sert à quoi ? On est là pour faire quoi ? L'école de la République, elle est toujours là pour fabriquer des citoyens ? Ou on est là pour faire l'éloge de la différence ? Elle est là pour apprendre l'effort et le mérite ? Ou, comme le fait Najed Vallaud-Belkacem, on supprime les bourses au mérite. Vous commencez par vous interroger sur les valeurs. Les valeurs en France...
Elle est votre nouvelle cible, hein, Najed. Pardon ? Maintenant que Christiane Taubira a quitté le gouvernement, on sent que Najed Vallaud-Belkacem, elle va, comme on dit, prendre cher, comme disait.
J'aime pas les gens qui déconstruisent la République. Ouais. Et c'est vrai que quand on déconstruit la République, on prend cher. Voilà.
Troisième point, valeurs.
Et le troisième point, c'est des résultats. Pourquoi est-ce qu'il y a une raison de nous croire ? Aucune. Sauf que, par exemple, quand je vous dis que je suis contre la dépense publique et les impôts, dans ma mairie, je les ai baissés pendant 3 ans. Quand je vous dis que je suis contre l'assistanat, dans ma mairie, j'ai mis en place un programme dans lequel les gens qu'on aide basculent en emploi. Dans ma région, la première chose que je fais, c'est de baisser la dépense publique pour protéger les classes moyennes de toute augmentation d'impôts.
Mais la première promesse de Nicolas Sarkozy, c'est de baisser les impôts de 10%.
Et il est très différent en ça des promesses d'Alain Juppé ou de François Fillon.
Ou même des vôtres, de ce que vous faites.
Moi, ce que je pense, mais il faut le faire dans le bon ordre. Il faut d'abord gérer la dépense publique et limiter la dépense publique. Et ensuite, redonner
de l'oxygène. D'abord les économies, ensuite les baisses d'impôts. Ça, c'est ce que vous dites, vous.
Oui, mais regardez...
C'est un peu ce que dit François Fillon, ce n'est pas ce que dit Nicolas Sarkozy, qui dit qu'il faut faire les deux en même temps. Baisse d'impôts et baisse de dépenses.
Le raisonnement de Nicolas, qui est au fond assez simple, c'est de dire aujourd'hui, on a pris à la gorge la France qui travaille. Et donc, elle ne consomme plus, elle n'investit plus. Et tous ceux qui ont envie de prendre des risques en France se disent de toute façon, si j'essaye de gagner un peu plus, de faire des efforts, je me fais rattraper par l'administration fiscale. Je comprends, moi, le raisonnement qui est celui posé par Nicolas, consistant à dire il faut qu'on redonne un oxygène fiscal immédiat.
Mais après, on sera obligé de baisser les dépenses parce que...
Mais vous n'êtes pas d'accord sur ce raisonnement, en tout cas sur l'ordre des mesures.
La seule chose que je veux, c'est que je veux absolument la garantie qu'on baisse les impôts. Et que cette garantie de baisse des impôts, elle soit assise d'abord une baisse de la dépense publique.
Et les impôts pour les particuliers, les entreprises ?
C'est qu'ont fait les socialistes. Ils ont assommé les entreprises, contrairement d'ailleurs à ce qu'ils ont dit, puisque les charges des entreprises ont augmenté. Et ils ont assommé les classes moyennes, ce qui est pour moi le sujet majeur, parce que c'est le point d'équilibre de notre pays. Et donc, évidemment... Il n'y a pas un choix à faire consistant à dire « je vais d'abord soulager les entreprises » ou « je vais d'abord soulager les ménages ». Pourquoi ? Et pour une raison toute simple, quand vous mettez des charges sur les entreprises, ça pénalise les entreprises et ça pénalise les salaires. Il faut sortir de cette espèce de vieille lune française consistant à opposer entreprises et salaires.
Vous comprenez bien, vous dites qu'il ne faut pas commencer par les baisses d'impôts, qu'il faut commencer par les baisses de dépenses.
Je dis que toutes les baisses d'impôts doivent être gagées par des baisses de
dépenses. Oui, mais dans l'ordre de passage.
Ça veut dire que vous présentez votre premier budget, vous commencez par dire « j'ai fait X milliards d'euros d'économies, ces X milliards d'euros d'économies me permettent de baisser de temps les impôts ». Et ce lien, c'est peut-être mon tempérament un peu auvergnat, a un côté indissociable.
Ça veut dire que
sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Sinon, on va baisser les impôts, mais on ne fera pas les économies.
Mais vous imaginez, si vous êtes, par exemple, le ministre des Finances ou le Premier ministre de Nicolas Sarkozy...
Je n'ai pas l'intention d'être ministre des Finances.
Vous allez lui dire ça, vous allez lui dire pour votre premier budget, vous allez lui dire, Premier ministre, pourquoi pas, vous allez lui dire, attendez, Monsieur le Président, on ne va pas pouvoir faire ce que vous avez promis aux Français, on ne va pas pouvoir baisser de 10% l'impôt sur le revenu tout de suite, parce que moi, je vais d'abord gager sur une baisse de dépenses.
Pardonnez-moi, mais ce que lui propose, et ce qui me semble une bonne idée, c'est une baisse des impôts le plus vite possible.
Tout de suite, il a dit tout de suite.
C'est différent. Moi, ce que je dis, c'est que dès le premier budget, économie, tout de suite.
Alors, les
aussi.
Économies, on les fait sur les dépenses sociales ?
Vous me permettez d'aborder un sujet qui touche la région ?
Oui. S'il est d'intérêt national et pour tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, il n'y a aucun souci.
Je vois que la bande passante est étroite. Mais vous savez, ce qui touche Rhône-Alpes Auvergne, ça intéresse tout le monde. Juste un, vous avez failli vous étrangler. C'est une Parisienne qui a eu du mal à avaler son verre d'eau.
Non, je suis de la région.
C'est très bien, vous voyez, ça nous fait un point commun. Vous êtes d'où ?
Non, je suis de la Creuse, pas tout à fait de la région,
c'est
mais pas
la
loin.
Région, pas mais c'est pas presque,
tout à fait
mais
de la
c'est
région.
Pas mal quand même.
Mais c'est
pas
mal quand même. C'était pas loin,
c'est pas mal quand même. Quand j'ai été élu président de la région...
Il reste 2 minutes avant la pause, pardon.
J'ai donc reçu un coup de fil charmant de Manuel Valls, me félicitant pour mon élection, qui visiblement lui avait fait très plaisir, et me proposant de soutenir le plan pour l'emploi de François Hollande. Ce plan pour l'emploi de François Hollande, c'est juste du traitement social du chômage. Ça consiste juste à prendre 500 000 demandeurs d'emploi, financer des formations sans même se soucier de savoir si à l'arrivée, ils vont trouver des métiers, et bourrer les statistiques de formation pour les faire s'évaporer des statistiques du chômage. C'est non.
Et donc vous ne vous êtes pas rendu à la fameuse réunion à Matignon où tous les autres présidents de région étaient.
Exactement.
Il paraît que vous avez essayé de convaincre, par parenthèse, oui. d'autres présidents de région de faire comme vous, de boycott.
Oui,
ça n'a pas marché.
Non, mais ça ne m'empêche pas de rester fidèle à ce que je pense. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas un discours avant une élection et après une élection. Je me suis battu pendant cette campagne des régionales pour dire le social en France ne peut pas être par l'assistanat, il doit être par le travail. Je me suis battu pour dire qu'il fallait arrêter de financer les formations en faisant croire aux demandeurs d'emploi qu'ils allaient s'en sortir, alors qu'on injecte des milliards d'euros sur des formations qui n'ont pas de sens. Et donc, j'essaye d'être, et c'est au fond le reflet de ce qu'on a dit, pourquoi on peut me faire confiance ? Parce que mes idées, je les mets en œuvre. Et je ne change pas de ligne à l'échelle de notre région. On applique ce à quoi on croit.
Mais vous savez que les Français en ont, si vous me permettez l'expression, assez marre quand même des batailles droite-gauche. Ils le disent dans les urnes, ils le disent d'ailleurs dans le climat ambiant, on les entend. Est-ce que ce refus de travailler avec la gauche sur des questions aussi primordiales que l'emploi, ça n'est pas de la vieille politique, Laurent Wauquiez ?
D'abord, la première chose, quand il y a eu la déchéance de nationalité proposée par François Hollande, je l'ai votée. Parce que je considère que c'était d'intérêt général et qu'on pouvait se retrouver dessus. Donc, je n'applique pas cette vieille politique. Mais pour moi, la vieille politique, c'est celle qui aboutit à ce que la droite, quand elle est élue, fait la politique de l'emploi de la gauche. La vieille politique, c'est celle dont les Français ne veulent plus aujourd'hui, où droite comme gauche, ils voient que c'est pareil, et que, quelles que soient les alternances, il n'y a rien qui change dans le pays.
Merci beaucoup pour cette première émission, partie de l'émission. On fait une pause, Laurent Wauquiez, on se retrouve juste après pour la deuxième partie du grand jury RTL Le Figaro LCI. A tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Laurent Wauquiez, président du Conseil régional Rhône-Alpes Auvergne, vice-président délégué des Républicains. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Alexis Brazet, directeur des rédactions du Figaro, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Laurent Wauquiez, vous avez voté, vous l'avez rappelé, en faveur de la révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Vote mercredi soir. Est-ce que vous souhaitez maintenant que le vote soit adopté conforme, comme on dit dans le jargon parlementaire, c'est-à-dire exactement dans les mêmes termes par les sénateurs ? Le texte arrive vers le 15-16 mars, ou puisque vous avez voté, vous voulez, malgré le fait que vous ayez voté pour, vous souhaitez une réécriture, comme beaucoup de vos amis à droite.
Non, je ne veux pas faire semblant d'être pour, tout en réalité étant contre, de dire je soutiens, mais je mets une mine au passage pour que le projet n'aboutisse pas. J'essaye d'être très simple et clair. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des personnes qui sont inculpées pour terrorisme qui ont une double nationalité. Ça veut dire qu'une fois qu'ils auront purgé leur peine, ils resteront sur le sol français. Si vous voulez les extrader, il faut leur faire perdre la nationalité française. C'est la première chose. La deuxième, pour moi, c'est une question qui est, et là aussi, vous voyez que j'essaye de m'astreindre à cette ligne, de valeur. Voilà des gens auxquels la France a donné la nationalité française, beaucoup trop généreusement, et qui ensuite tournent les armes contre notre pays.
La réforme prévoit justement que c'est les gens qui sont nés français qui pourront être déchus de la nationalité.
Et plus seulement naturalisés.
C'est le cas aujourd'hui.
Mais qui ont gardé une double nationalité. Et pour moi, pardon, mais c'est pas la même chose de garder deux nationalités et de faire le choix total de la France.
Vous voudriez qu'on revienne, je crois que c'était avant 73, ou me semble-t-il, où on ne pouvait pas avoir de double, ou 93, de double nationalité ?
Non. La seule chose que je veux, c'est que quand on a une double nationalité, on ne trahit pas la France. C'est aussi simple que ça. Et quand on trahit la France, on perd la nationalité française. Et vous voyez, ce que je trouve assez étonnant dans un certain nombre de débats qui sont portés par les socialistes et par une partie des socialistes, je trouve qu'ils ont trahi les valeurs de la République. Victor Schœlcher avait prévu cette déchéance de nationalité. Pour quelqu'un comme Jaurès, c'était d'abord la République française et elle primait sur les individus. Aujourd'hui, ce qu'est la gauche en France, c'est une gauche qui met au premier plan les droits des individus, quoi qu'ils fassent. Vous rendez complice de terrorisme ? Vous pouvez garder la nationalité française ? Je comprends même pas.
Là, en l'occurrence, c'est quand même la gauche qui propose ce texte sur la déchéance.
Hollande, oui.
Et donc, si on vous comprend, il vous va, grosso modo, il vous va bien.
J'aurais plein de choses à contester. Et M. Jacubizine y a fait allusion. Je raffole pas qu'on ait traité de la même manière tout le monde pour essayer de faire un tout petit peu de combine. Mais pour moi, l'essentiel, tout ce qui permet de mieux protéger les Français contre les terroristes va dans la bonne direction.
Ce que vous dites aux sénateurs, si vous avez quelque chose à leur dire, c'est adoptons ce texte tel qu'il est, ne le refaisons pas.
Allons au Congrès au plus vite possible.
J'ai ici dans la salle deux amis sénateurs, François-Noël Buffet, Sophie Primas, Alain Houpert, donc je ne vais surtout pas leur donner la moindre leçon.
Mon souhait
à moi,
c'est qu'on aille au Congrès.
C'est qu'on aille au Congrès et qu'on puisse l'adopter.
Voilà, ça ne peut pas être plus simple. Mais François Fillon,
vous me permettez d'ajouter quelque chose ?
C'est une posture ou...
Non, enfin, encore une fois.
François Fillon n'a pas voté pour l'article de la déchéance.
Moi, j'essaye de respecter ce que sont les positions de chacun. Je ne suis pas là pour donner des leçons. En revanche, vous expliquer ce qu'était la mienne.
Il y a aussi ceux qui ne veulent pas le voter en disant mais ça va rendre service à François Hollande, il pourra faire sa révision, etc.
Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'on l'a dit, quand on est en désaccord, je suis capable de le pousser fortement. Mais quand ce sont des sujets d'intérêt général et qu'on peut arriver à trouver un point d'entente, ce n'est pas un problème.
Et là, on joue avec le feu, on joue avec les valeurs.
Vous me permettez juste un ajout. Et celui-là, c'est une demande claire que je fais à l'égard du président Hollande. Vous avez abordé la question de la déchéance de nationalité, c'est très bien. Mais je veux que maintenant soit posée clairement sur la table et ouvert au débat la question de l'acquisition de la nationalité française. La France donne sa nationalité à beaucoup trop de monde. Dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, à des gens qui ne maîtrisent pas correctement le français, qui ne connaissent pas suffisamment et surtout n'adhèrent pas aux valeurs de la culture française, et qui, pardon de le dire parce que c'est aussi un sujet pour moi, n'ont même pas la capacité à faire vivre leur famille de leur travail. Je pense que c'est un problème. Et aujourd'hui, je vois ce qui s'est passé depuis l'élection de François Hollande, le nombre de naturalisations a augmenté de 50%. Quand on prend les naturalisations aujourd'hui, mariage compris, mais qu'on enlève les naturalisations de droit à l'âge de la majorité, on a 100 000 personnes qui acquièrent la nationalité française chaque année. C'est trop, et la France ne peut plus le supporter.
Et le principal vecteur, c'est le mariage, effectivement.
Le mariage est un des vecteurs, mais pas seulement. Vous avez aussi toutes les acquisitions de nationalité qui sont faites juste en déposant un dossier en préfecture. Or, si vous regardez dans le détail la procédure, d'abord, il n'y a pas de test de langue qui est un préalable. Aucun test de langue préalable. C'est-à-dire que votre dossier est pris, et puis ensuite, on fait quelques échanges, et on regarde si vous parlez plus ou moins bien le français. Je suis allé à des cérémonies de délivrance de la nationalité française. Un certain nombre de personnes que j'avais en face de moi n'étaient pas capables de s'exprimer correctement ou ne comprenaient pas toujours ce que je disais.
Donc, acquisition de la langue française, préalable absolu.
C'est-à-dire un test, et qu'il soit un test avec un vrai niveau de langue. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, ils ont un test d'acquisition de maîtrise de l'allemand qui est très exigeant. Nous, non. On fait des tests de langue qui ne sont même pas des préalables et qui ne sont pas des tests sérieux. Deuxièmement, je souhaite qu'on n'en reste pas un espèce de quiz sur la culture française consistant à dire la Révolution française, est-ce que c'était 1789, 1791 ou 1793 ? Mais une adhésion profonde et une compréhension profonde
de ce qu'est la France. Mais ça, vous la vérifiez comment ?
Que vous mesurez comment, oui.
Mais vous savez, il y a des pays qui le pratiquent. Avec des concours, et des concours sur lesquels les gens se préparent durement. Le Canada est un pays dans lequel l'acquisition de la nationalité est difficile. Les États-Unis sont un pays dans lequel l'acquisition de la nationalité...
Et qu'on brade notre nationalité par des conditions qui ne sont pas assez dures, finalement.
Je dis qu'aujourd'hui, la nationalité française est devenue l'auberge espagnole. Et que n'importe qui peut l'acquérir dans des conditions qui ne sont, à mon goût, pas assez exigeantes par rapport aux dérives du communautarisme.
D'une certaine façon, vous dites au président, moi je vote la déchéance, je trouve que ça va... On partage au moins cette valeur-là. En contrepartie, je vous demande d'être plus exigeant quant à l'acquisition de la nationalité française.
Je souhaite qu'on ouvre le débat de l'acquisition de la nationalité française. Et je demande au président Hollande d'ouvrir ce débat. Il va pour moi jusqu'aux dernières conditions, qui est que je suis convaincu que l'intégration française marchait, elle marchait. Pourquoi ? Parce que les gens qui venaient en France venaient pour y travailler et qu'ils adhéraient profondément et qu'ils étaient même fiers de ce qu'était la France. Avec un discours qui consistait à dire à leurs enfants, mon fils, ma fille, tu dois devenir plus français que les Français. Aujourd'hui, dans l'acquisition de la nationalité française, on ne vérifie même pas si les gens sont en capacité par leur travail de faire vivre leur famille. Ça fait partie des éléments qui, pour moi, sont dans ce que doit être l'octroi de la nationalité française.
Dans Le Figaro, hier, vous affirmez « Je ne veux pas que les Français se sentent devenir minoritaires chez eux ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ce que ça veut dire, et pardon, mais vous avez l'air de le prendre comme étant quelque chose qui serait un gros mot incompréhensible.
Non, n'interprétez pas ma question. Je vous demande ce que ça veut dire, parce que c'est très ouvert comme déclaration.
Il est très compréhensible. Je pense qu'aujourd'hui, on a érigé le droit à la différence en un espèce de droit sacré. On n'apprend plus à devenir citoyen, on n'apprend plus à adhérer à la France, chacun oppose à l'autre sa différence. Et on a le sentiment, regardez l'enseignement de l'histoire, qu'on ne transmet plus notre histoire, que l'école n'est plus un lieu de transmission des valeurs de la France, ce qu'elle était et ce qui avait fait sa force. Et je crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction. Je crois par exemple que quand on a commencé à nous expliquer qu'il ne fallait plus de mettre de crèche dans les lieux publics, c'est une immense erreur. Parce que ce n'est pas juste la question des racines chrétiennes de la France, c'est juste la question de son identité et d'un rapport serein à notre identité et du fait de dire, voilà, ce pays ne vient pas de nulle part. Il a une histoire, il a des traditions et pour que chacun s'intègre,
Les Français ne veulent pas devenir minoritaires chez eux. Il y a toutes ces questions de tradition, de culture. Il y a aussi une question de nombre, minorité, majorité. Ça fait référence à une quantité d'étrangers.
C'est pas à ça que je voulais faire référence. Ce à quoi je voulais faire référence, c'était au fond une certaine crainte que notre pays change de nature. Ni plus ni moins.
Oui, donc c'est pas une distinction que vous faites, et c'est là où je pense qu'Elisabeth a raison de poser la question. C'est pas une distinction
entre
les Français et les étrangers qu'il y a dans votre question.
C'est de culture minoritaire.
Oui, c'est ça. C'est au fond, vous opposez des Français à d'autres Français qui n'ont pas peut-être la même culture ou les mêmes choix.
Moi je n'oppose personne à personne. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est qu'on retrouve le sentiment d'une appartenance commune, d'une histoire commune, d'une culture commune, d'une façon de vivre ensemble qui soit commune.
Si c'est ce que vous vouliez dire, de dire que les Français ne veulent pas devenir minoritaires, au fond, vous dites, souvent c'est par rapport à d'autres Français qu'ils se sentent peut-être minoritaires. Donc c'est là où c'est compliqué d'intégrer après.
Pardonnez-moi, monsieur Jacubizine, mais je pense que c'est exactement aujourd'hui ce que ressentent les Français. Le sentiment qu'ils ont, c'est que par exemple, s'agissant de notre histoire de France, on passe notre temps à s'en excuser. Que s'agissant de nos valeurs, d'une certaine manière, on a de plus en plus un fonctionnement du contrat républicain dans lequel c'est celui qui vient de l'étranger qui demande à la République de s'adapter. Mais moi, je ne crois pas ça. Je pense que c'est à l'étranger de s'adapter à la République.
Alors justement, Alexis Brézé.
Juste un mot. Vous dites qu'il faut ouvrir le débat sur l'acquisition de la nationalité. Faut-il ouvrir ou réouvrir le débat sur le droit du sol ?
Je vais vous dire, j'y suis pas favorable pour l'instant. C'est pas un thème tabou pour moi. Je comprends qu'on puisse en débattre et l'ouvrir. Mais j'ai plutôt envie de dire déjà, commençons par prendre le problème dans le bon sens. Le premier problème, c'est que, et ça ne pose aucun grand problème de principe entre droit du sol et droit du sang, c'est que la France donne déjà beaucoup trop sa nationalité, beaucoup trop facilement. Commençons par ça.
Alors revenons sur les dépenses sociales. Vous êtes président d'une région, ça représente évidemment un budget important. Mais il y a quelques années, vous avez fait sensation, entre guillemets, en déclarant que l'assistanat était selon vous le cancer de la société. Or, récemment, le département du Bas-Rhin a voté du Bas-Rhin, ou du Haut-Rhin,
les deux.
Voilà. Merci.
Je viens à
merci
votre aide, vous la rejoignez.
Oui, j'avais un petit doute. Il vaut mieux être précis. En plus, ce sont vos amis politiques. Et qui ont voté en faveur du conditionnement de l'attribution du RSA à des travaux d'intérêt généraux, ou autre, en tout cas du bénévolat.
7 heures de bénévolat hebdomadaire. C'est un peu ce que vous aviez proposé, vous, il y a quelques années.
Exactement, 5 heures, je crois. Et le gouvernement a dit non, par la personne de Marisol Touraine, qui a dit son hostilité. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Qu'elle a tort. Et que le social en France doit redevenir un équilibre entre les droits et les devoirs. Moi, je suis attaché à notre système de solidarité nationale. Et je pense que c'est un des points forts de notre pays. Et je pense qu'il s'est progressivement perdu en chemin avec un système qui est maintenant un système d'assistanat dans lequel, et j'insiste bien dessus, on n'aide pas véritablement les gens. Madame Marisol Touraine pratique dans sa grande déclaration beaucoup de politiquement correct. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que le vrai social, c'est par le travail. Il y a eu un témoignage, d'ailleurs, qui m'avait marqué, monsieur Jacubizine, sur votre antenne télé, où une dame de 33 ans témoignait en disant « ça fait 8 ans que je n'ai pas travaillé ». qu'on me demande peut-être de me lever le matin, de rendre service aux autres, pourquoi pas ? Parce que ça me rendra ma dignité et mon utilité. On ne rend pas service aux gens qui cherchent un emploi en considérant que le seul social, c'est de leur verser des prestations sociales. Moi, je crois qu'on rend service quand on a le courage de dire « le social, c'est par le travail ». Alors, le gouvernement veut empêcher ces deux départements alsaciens de le mettre en œuvre. Je pense que nous, il faut qu'on prenne un engagement très clair. Si nous revenons au pouvoir et si les gens nous font confiance, il faudra évidemment qu'on règle ce sujet une bonne fois pour toutes. Ça fait plusieurs années que je me bats pour. Une seule prestation qui regroupe l'ensemble des prestations sociales, ce qui permettra aussi de s'assurer qu'il y a une vraie différence entre les revenus du travail et les revenus de l'assistanat. Et avec, en contrepartie de, cette prestation, de cette aide, un certain nombre d'heures dans lesquelles on rend service à la société. On reçoit, on est capable de rendre aussi.
Des heures gratuites, d'un point de vue pratique, par exemple.
Mais si c'est vous pas deviez, gratuit. C'est,
non.
Mais pardon, c'est, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Non,
gratuit.
Mais, pas payé.
Mais c'est pas gratuit.
Mais est-ce que c'est réaliste, cela dit, parce qu'il fallait en trouver des heures, compte tenu du nombre d'allocataires qui ne cessent de.
Madame Martichaud, on va me dire que je vous martyrise un petit peu aujourd'hui, mais comme c'est réciproque, ça va.
Vous ne sentez pas martyriser.
Non, je dis ça.
Mais juste interroger.
Je dis ça en taquinant. Mais juste, vous voyez ce que vous dites. On peut pas. Le droit nous l'interdit.
Non, mais je vous
ça marchera
comment
pas.
Vous faites, parce que la question, mais effectivement, de l'efficacité, c'est aussi celle du réalisme d'une mesure.
Eh bien oui, mais vous savez quoi ? Je pense qu'à force de réalisme, et c'est ce que je dis quand je parle des politiques qui sont devenus des techniciens au petit pied, il ne change plus rien. Oui, effectivement, on a mis le principe de précaution dans la Constitution. Oui, on nous explique qu'en raison de ça ou ça, l'Europe ne nous permet pas de faire. Oui, on a maintenant beaucoup trop de politiques qui sont devenus des espèces de juristes et des clercs du droit, qui se contentent de l'appliquer au lieu de poser la première question qui est « est-ce que c'est bon ou non pour notre pays ?» L'assistanat n'est pas bon pour notre pays ? Eh bien, on va chercher toutes les solutions qui permettent de le corriger. C'est ça, la question.
Non, mais 7 heures par semaine, ça fait 28 heures par mois. Y a quand même, quand on voit le nombre d'allocataires du RSA, il faut trouver des choses à leur faire faire. On trouvera, vous n'avez pas d'inquiétude là-dessus.
Alors maintenant, je vais répondre à votre question réaliste. Venez chez moi. Bah, venez au Puy-en-Velay. Je ne prétends pas qu'on soit parfait, loin s'en faut. Mais on a quand même mis en place un système dans lequel, quand les gens bénéficient d'une aide municipale, eh bien, on les incite à s'engager dans un chantier d'insertion, nettoyage de rivières, entretien d'espaces verts, action aussi pour les personnes âgées. L'intérêt, c'est quoi ? C'est que derrière, on peut mettre des formations sur la table et on peut ramener les gens en direction de l'emploi. Il ne s'agit pas de stigmatiser les assistés, je ne dis jamais ça. Il s'agit de dénoncer un système social français qui est devenu l'assistanat.
S'ils n'acceptent pas, si.
Bah, auquel cas, on n'a plus le droit
à la solution. Les syndicats, s'ils essayent de bloquer les situations.
En disant ça va prendre des emplois.
Vous savez, je vais vous répondre très clairement, ce n'est pas les syndicats qui commandent. J'ai beaucoup de respect pour les syndicats, mais il y a une démocratie en France, c'est la démocratie qui décide.
Sur le RSA, là, vous parliez des modalités d'exercice du RSA. Il y a aujourd'hui un problème financier, c'est que les départements sont pris à la gorge par ce RSA, au-delà du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui n'arrêtent pas d'augmenter, ils n'ont pas d'argent pour payer le RSA. Il y a un certain nombre d'exécutifs départementaux disent bah, finalement que l'État reprenne le RSA et nous on ne veut plus s'en occuper.
Mais vous voyez bien que ça c'est typique, alors on se passe le bébé et on dit bah non, le RSA ça ne marche plus parce que ça coûte trop cher et donc on va le donner à l'État. Mais ça ne résoudra rien. Pour les auditeurs qui nous écoutent, de toute façon c'est leurs charges et leurs impôts qui payeront. Vous voulez permettre au pays de reprendre de l'oxygène ? Il faut faire en sorte que notre système social aide vraiment ceux qui en ont vraiment besoin, mais qu'on arrête de fermer les yeux sur les abus.
C'était quand même pas la meilleure idée de Nicolas Sarkozy, le RSA.
Non. Et je l'ai d'ailleurs combattu.
Christophe Jacques.
On va aussi prendre un exemple de proposition dans un programme et sur la mise en œuvre concrète. Candidat à la région, vous aviez proposé de mettre des portiques de sécurité dans tous les lycées de votre région. Alors, on en est où ? Combien ça va coûter ? Quel est le calendrier de mise en œuvre ?
Et si on n'est pas trop martyrisant, est-ce que c'est réaliste ?
Si on peut maintenant, poser c'est vous qui pratiquez l'humour avec moi. Je le disais vraiment avec de la taquinerie. Regardez, aujourd'hui, ce qui s'est passé suite aux attentats. On a protégé nos préfectures. On protège nos administrations, on protège des lieux comme ici, et on ne va pas protéger nos établissements d'enseignement ? On ne va pas protéger nos enfants ? Là, non. Là, ce n'est pas possible.
Non, mais là, ça y est, vous avez gagné, donc vous allez pouvoir mettre en œuvre cette promesse.
Donc
alors.
On le fait, et on est en train de le mettre en place. On commence avec 15 lycées pour faire une première batterie de tests. Pas juste des systèmes de portiques avec badge, mais aussi des réseaux qui permettent d'avoir de la vidéoprotection, redéployer un peu l'architecture à l'intérieur d'un lycée pour qu'on surveille qui rentre. Je vais vous donner un chiffre. Dans un des départements.
Ce seront, par parenthèse, des vrais portiques de sécurité. Ce n'est pas des tourniquets. Ça va
non, être... l'objectif, on ne va pas faire passer à travers des détecteurs de métaux, hein, parce que ça, on n'y arrivera pas. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de s'assurer que les gens qui rentrent dans un lycée sont bien ceux qui ont droit de rentrer dans ce lycée. Nos étudiants, nos professeurs, et pas n'importe qui. Pourquoi? Dans un des départements de ma région, pour en prendre qu'un, dans l'Isère, on a eu l'année dernière plus de 40 intrusions avec des armes, avec des agressions, avec des problématiques de trafic de drogue à l'intérieur des lycées. Vous pensez pas que ma responsabilité, c'est d'essayer de faire en sorte de protéger nos lycéens contre ce type de choses? Donc ce sera utile pour les problématiques de sécurisation, et ce sera utile plus globalement aussi. Et puis accessoirement, c'est pas forcément sot de s'assurer qu'un lycéen vient bien en cours, et donc d'identifier aussi des lycéens
combien
qui peuvent être décrocheurs.
Combien de temps pour appliquer de manière générale cette promesse à l'ensemble de votre région?
On va le faire monter en puissance petit à petit. Je veux qu'on commence par 15 lycées. J'aime bien cette méthode. On commence par tester. On voit les erreurs, ce qui marche, ce qui ne marche pas.
Sur une quinzaine,
on corrige.
Hein, le test en ce moment-là.
Exactement. Ouais. Donc on est en train de
le faire. Une généralisation pour les établissements qui le souhaiteront?
Oui, parce que pourquoi?
Uniquement.
Vous savez.
Il y a pas mal de réticences des profs qui disent oh, c'est très compliqué, puis, on va faire des attroupements à l'entrée des lycées.
Tarder. Oui, ça va être des cibles.
C'est pour ça que je veux leur apporter la démonstration que ça marche. Mmh. Voilà, donc on va tester, ça permettra de convaincre tout le monde. Et je veux juste te dire aussi une chose, on a eu des attentats devant les écoles. Mmh. On a eu des faits qui ont été graves. N'attendons pas un drame pour réagir.
On va tout de suite accueillir Benoît Galeret, qui a beaucoup de questions à vous poser aussi.
Bonjour.
Et qui émane de ceux qui vous écoutent et vous regardent depuis 12h30. Benoît.
En effet, bonjour.
Bonjour.
Ceux qui, pendant que nous parlions, Le Figaro a annoncé sur son compte Twitter que Jean-François Copé devrait annoncer ce soir sa candidature à la primaire. Sur place, un journaliste, Jean-Baptiste Marteau, nous dit agacement visible des proches de Nicolas Sarkozy quand on leur parle de la possible déclaration de candidature de Jean-François Copé. Marie aimerait savoir votre sentiment à ce sujet-là.
Il n'y a pas d'agacement pour moi.
Bienvenue au club.
je le disais avec un peu de sourire. Hein. Visiblement, c'est le printemps un peu avant, donc les candidatures fleurissent. Mais plus sérieusement, Jean-François Copé n'a pas été mis en examen par la justice. C'est bien pour lui.
Vous aviez eu des mots très durs dans l'affaire Big Malion.
Je vais y revenir.
Vous le regrettez?
Non, je vais y revenir et je vais en parler. Vous inquiétez pas. J'y viens tout de suite. C'est une personnalité qui a toute sa place. Il apporte des idées à notre famille politique et c'est très bien. Après, je veux quand même pas oublier quelque chose. C'est que la justice ait considéré qu'il n'y ait pas eu de fraude ou pas d'enrichissement personnel, c'est une chose. Que les contrats signés avec Big Malion aient été une bonne nouvelle pour notre parti, c'est autre chose. Qu'on ait eu, il y a 15 mois, un parti qui était au bord de la liquidation financière, dans lequel on se déchirait et dans lequel il y avait des affrontements terribles, c'est autre chose. Et je suis reconnaissant à Nicolas Sarkozy d'avoir ramené de la sérénité et au moins d'avoir fait en sorte qu'aujourd'hui, l'état de notre parti et de notre famille politique n'a plus rien à voir avec ce que c'était. Je pense qu'à l'époque, Jean-François Copé a pris une bonne décision en démissionnant du parti. Après, il a le droit à une seconde chance, comme tout le monde.
Qui allez-vous soutenir à la primaire si M. Sarkozy n'est pas candidat? Je vous demande encore, Marie.
Vous-même, peut-être?
Oui.
Vous me permettrez de pas... pardon, ce sera peut-être la seule question à laquelle je ne répondrai pas pendant cette émission. Pas de fiction. Mon cap, il est très simple. Si Nicolas Sarkozy est candidat, et si il défend les idées auxquelles je crois, j'ai bien dit l'un et l'autre, alors je le soutiendrai.
Vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il a eu jusqu'au bout?
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit si Nicolas Sarkozy...
Non, mais je vous pose la question, c'est pour ça, plus précisément.
Non, je pense que pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Donc tant qu'il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas prononcé.
Moi, j'ai une question peut-être de bon sens que beaucoup de Français se posent. Nicolas Sarkozy a été président, Alain Juppé était Premier ministre. Pourquoi vous êtes, François Fillon aussi, Laurent Wauquiez, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit à des candidats de cette génération-là? Pourquoi est-ce que vous vous mettez toujours à la remorque des plus anciens, des plus expérimentés sans doute? Mais pourquoi est-ce que vous interdisez vous-même d'aller au combat?
Monsieur Jacques-Cubizine, je ne sais pas si c'est une question de bon sens ou si c'est un piège habillé d'un peu de flatterie sympathique.
Beaucoup de Français se posent la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes générations d'hommes politiques et de femmes politiques que dans d'autres pays européens?
Je vais essayer d'y répondre. Cette question de génération, c'est une vraie question. C'est celle du renouvellement de la vie politique française. Renzi a 39 ans. Je suis déjà beaucoup trop vieux pour le poste, puisque j'en ai 40. 40. J'essaye d'oublier de plus en plus. Mais indépendamment de ça, si on vient et qu'on dit « Allez, nouvelle génération maintenant. Enlever les anciens, c'est notre tour. » Et juste ce discours-là,
Non, mais les anciens, on les a essayés déjà.
Non.
Vous l'avez dit vous-même, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis.
Pour moi, monsieur Jakubizine.
Et vous dites que vous feriez ce que vous promettez. Donc
ce qui compte, c'est est-ce qu'on vient avec des idées claires et est-ce qu'on vient en corrigeant les erreurs qu'on a faites. Et de ce point de vue, quelqu'un qui a pu exercer des responsabilités, mais qui nous dit je ne serai pas le meilleur parce que je suis le meilleur, mais je serai le meilleur parce que j'ai compris ce qu'ont été mes erreurs. Pour moi, c'est un discours que je suis capable d'entendre.
Benoît Quelleret.
Sur vos idées, justement, en vous écoutant ce matin devant cette salle qui vous a beaucoup applaudi, et puis là, sur notre antenne, certains essayent de situer vos idées. Beaucoup parlent du Front National. Sylvain, lui, dit que non, vos modèles, il vous a entendu ce matin parler de la France qui serait de retour. Il dit, mais non, c'est Reagan et Bush qui disaient « l'America is back », c'était en 1984. Et je vous pose cette question parce que Jean-Luc Romero parle de dérive populiste, et on a vu ensuite dans les interventions de Monsieur Woerth et de Monsieur Raffarin après la vôtre, la nostalgie n'est pas le meilleur des sentiments. La France, ce n'est pas la haine de l'étranger. Je lui propose même que vous soyez ministre de la Fraternité, Monsieur Raffarin. M'a dit à vous entendre successivement, on dirait que vous n'apparteniez tout simplement pas à la même famille politique. Est-ce que vous avez parfois ce sentiment aussi?
Vous étiez dans la salle hier, tout à l'heure?
Non.
Je peux vous dire que si vous y étiez, vous auriez compris qu'on appartient bien à la même famille politique.
Vous avez tous été applaudis de la même façon.
Je vous laisse juste, c'est pas mon sujet. Mais ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que je pense que la politique française s'est tuée par le politiquement correct. Mon objectif n'est pas de plaire à M. Romero, j'en ai strictement rien à faire. Mon objectif n'est pas d'avoir le discours le plus consensuel possible, je n'en ai strictement rien à faire. Et je ne suis plus là pour un jeu. Je ne suis pas là pour juste une conquête du pouvoir. Je pense que notre pays est en train de se défaire. Qu'il est en train de perdre sa substance industrielle, qu'il est en train d'avoir un système de solidarité qui est devenu injuste, qu'il est en train de perdre sa capacité à intégrer et qu'il se fait gangréner par le communautarisme. Et je veux porter ça. Et je veux faire en sorte, oui, qu'il puisse y avoir un sursaut. Et un dernier point, pardon de le dire...
Quand on vous entend, on se dit que vous pourriez être candidat.
Non, ce que je veux, c'est me battre pour mes idées, parce que j'en ai assez que la politique en France ne fasse rien et qu'on n'ait pas réussi au cours des années qui se sont écoulées à aller trouver ce sursaut dans notre pays. C'est pour ça que je me bats.
Dernière question concernant votre famille. Jean-Pierre Raffarin va annoncer son ralliement à Alain Juppé. C'est un non-événement ou c'est une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy?
Bon non, c'est très bien. Enfin voilà, c'est Jean-Pierre Raffarin fait son choix, chacun fera son choix. Du moment que c'est dans le respect des uns et des autres, j'ai pas de soucis. Voilà.
Ça n'est pas dommageable à Nicolas Sarkozy, au contraire.
Je suis pas là pour ça. Enfin voilà, est-ce que c'est dommageable ou non? Voilà,
c'est la vie d'une famille.
C'est la vie d'une famille. On va avoir une compétition. Très bien. Mais encore une fois, une compétition sur les idées et pas sur le casting.
Merci beaucoup Laurent Wauquiez d'avoir été notre invité aujourd'hui au grand jury RTL Le Figaro LCI. Merci de nous avoir suivis. Merci Alexis Brézet et Christophe Jakubizine. On retrouve ce grand jury à 18h30 en intégralité sur LCI et le replay sur RTL à 18h15. Merci, au revoir, bonne journée.